Bonjour et bienvenue au One Eye Club, le podcast BD bimensuel qui fait mousser la lèvre. Elle est bien bonne et bien fraîche, car en ce mois d'octobre, oui, nous sommes en octobre quand nous enregistrons, ben on est tranquille, hein, il fait chaud, on est en t-shirt, Thio est encore en short.
En short à fleurs, avec des grandes feuilles de palmier. C'est...
Et donc pour m'accompagner, j'ai Thio avec son superbe short à fleurs. Il porte les plus beaux shorts à fleurs du monde du podcast.
C'est le magnum du short.
Et Isaac, qui a des superbes sous-vêtements de métal.
car il faut signaler tout de même que nous enregistrons cette émission à côté de l'étendage d'Isaac. Et
qui met bien en valeur.
Qui met bien en valeur, donc un splendide, un magnifique boxeur Iron Man.
Si c'est pas prétentieux, ça.
Qui m'a été offert.
Eh oui, ouais, c'est l'homme de fer.
Yeah, man.
Yeah.
Ping, ping. Tony Glandil et mes couilles, c'est du béton.
Nous sommes ensemble pour plus d'une heure. En général, c'est à peu près le temps qu'on tient sur une émission. Nous allons parler de bande dessinée.
Ah, c'était sûr, parce qu'on est mal parti quand même.
Nous allons vous parler de Old Man Logan, qu'on a enfin lu il y a des ans.
Qu'on a enfin acheté aussi.
Oui, de Usagi Yojimbo numéro 24, de 20th Century Boys spin-off, tiens, encore du Urasawa, deux fois d'affilée, du Magasin des Suicides, de Love, et
en splash page,
nous allons parler de Vieille Bruyère et Bas de Soie. Puis Matt viendra nous rejoindre pour nous parler de manga, je ne sais trop quoi de quoi il va nous parler, parce qu'en fait je n'ai pas encore réussi à le joindre, et... Un petit hors-sujet, nous allons vous parler d'un artiste que nous aimons beaucoup et que nous avons vu en concert il y a peu.
Mais chut.
Surprise. Et puis on va démarrer de suite, hein, parce qu'on n'a pas que ça à faire, il commence à être tard, là.
Jingle
Old Man Logan. Ah non, c'était pas ça, c'était pas Jingle.
Jingle bell,
longtemps qu'on a pas de
chanson. Wolverine.
Il était temps. Nouvelle œuvre de la bande dessinée ancienne.
Old Man Logan.
Wolverine,
Old Man Logan, de Mark Millar et Steve McNiven, de Mark Ultimate Vampire Millar et Steve, c'est Civil War quoi, je crois qu'il avait fait McNiven. Mais qu'est-ce que ça nous raconte que ça, ce vieux truc qu'on a mis du temps à acheter, Thio, je t'en prie.
L'histoire d'un vieux Wolvie qui a tout lâché, qui est plus un super-héros, qui refuse de se servir de ses griffes, qui se fait tataner la gueule par le premier blaireau qui passe et qui dit « Oui, vas-y, frappe-moi encore. »
Parce qu'on est dans un monde post-apocalyptique où...
Les vilains ont gagné.
Et ils ont bien gagné, d'ailleurs.
Ouais.
Ils se sont partagés les États-Unis ainsi que le reste du monde. Et Wolvie est un petit farmer avec sa femme et ses enfants.
Et il veut être tranquille et qu'on le fasse pas chier. Mais il a du mal à payer le loyer qu'il doit au banner.
Aux enfants de Hulk.
Voilà.
Parce qu'il a réussi à se reproduire.
Mm. Et pas qu'un peu d'ailleurs.
Et il a fait des enfants. En plus, il ne sait pas qu'il s'est reproduit avec sa cousine.
C'était la seule à supporter ses assauts.
Voilà. Donc c'était c'était pas une mini-série, c'était publié dans les dans la série régulière de Wolverine. D'ailleurs, c'était paru en kiosque il y a quelques années maintenant. Et ça a été ressorti en recueil. Ça le fait très bien parce que c'est une belle mini-série qui est un petit peu à part. Ça aurait été mérité d'être une mini-série d'ailleurs. Je sais pas pourquoi est-ce que Marvel avait décidé de le garder dans la série régulière. C'est quelque chose d'assez intéressant. On avait beaucoup parlé vis-à-vis du ton, parce qu'on disait qu'enfin, la série régulière Wolverine avait quelque chose d'un peu intéressant qui se passait dedans. Alors que bon, ça s'éternisait un peu, il ne savait plus trop quoi lui faire faire. Et Mark Millar a fait une approche assez intéressante, qui n'est pas totalement sans rappeler l'approche qu'il avait pu avoir sur un Red Son. C'est-à-dire de changer un peu le contexte, etc. Sauf que là, il part sur du post-apo, avec quelques clins d'œil assez rigolos. Parce que pour payer le loyer Logan, qui a décidé de devenir pacifiste et de ne plus se battre, décide d'accompagner Œil de Faucon pour faire une livraison.
Pour la petite histoire, est devenu aveugle.
Oui. Pour faire une livraison d'il ne sait pas quoi. Bien sûr, parce qu'il ne doit pas savoir ce qu'il y a dans la livraison.
Mais c'est très bien rémunéré.
Et comme il veut payer le loyer, ben, il doit faire ça. Et on part sur du road movie. C'est vraiment le genre. C'est du road movie post-super-héroïque. C'est le genre qu'on a donné. Avec un Logan qui fait beaucoup penser à un Clint Eastwood à l'impitoyable.
À l'impitoyable, ouais,
clairement. Exactement. C'est le vieux lion sur le retour.
Et qui a décidé de ne surtout pas se battre et qui se prend des pains dans la gueule sans rien dire.
Et à force d'acculer un Wolverine, ça commence à faire mal.
Et ce n'est pas une contrepétrie. Et donc, il se balade avec un superbe véhicule qui est la Spider-Mobile. Il s'est sorti un vieux truc du néant. À travers les États-Unis pour faire cette livraison. Et bien sûr, ça ne se passe pas vraiment comme prévu parce que, quelque part, Olvi est tenté à de nombreuses reprises de ressortir ses griffes et il résiste autant que possible.
On apprend du coup pourquoi il refuse de sortir ses griffes.
Tu apprends pourquoi. Après aussi, surtout, c'est que c'est pas tant lui qui se crée les soucis, c'est que Œil de Faucon a quand même une famille un petit peu compliquée.
Et pour le moins.
Quelques activités un petit peu douteuses qui lui amènent quelques péripéties.
En tout cas, c'est une série qui est étrange car il n'y a pas vraiment de gentils, il n'y a que des enflures.
Ouais.
Logan, c'est le gars désabusé qui fait ce qu'il peut pour s'en sortir en essayant de faire profil bas tout du long, ce qui est assez surprenant pour le personnage qu'on a l'habitude de le connaître.
Complètement.
Mais quand on nous explique les raisons pourquoi, ça tient la route.
Ça tient bien la route.
Ça tient carrément la route.
Voilà.
En même temps, il fallait bien ça. Pour que Wolverine ne sorte pas ses griffes.
Comment, au niveau du scénario, moi j'ai mis qu'il y avait un côté un peu Sergio Leone. Ce côté un petit peu vraiment Western Spaghetti. Il y a ce côté un peu, déjà, Clint Eastwood dedans. Puis ce côté un peu Western Spaghetti, les grands espaces, le mec qui se balade au milieu, le héros solitaire qui veut pas qu'on l'emmerde, mais bien sûr, partout où il arrive, il s'attire des ennuis.
Oui, il y a un côté Mad Max aussi.
Oui, il y a un côté Mad Max aussi. Enfin,
au-delà du post-apo, le côté on a à la bagnole et puis il faut survivre dans ce monde impitoyable où tout le monde est méchant.
Qu'avez-vous pensé du scénario?
Moi, j'ai mis bourrin bien et inversement. Parce que c'est bien bourrin.
Et bien bourrin.
C'est vraiment ça. Il y a le côté road movie, vraiment la Sergio Leone, c'est clair, avec le gars avec la veste en cuir, quoi. Il lui manque juste le chapeau, quoi.
Oui.
Tout. Et quand même, le moment où on a des phases de fight avec Œil de Faucon qui a rien perdu, ça superbe. Et qui sont bien menés, bien sympas. Moi, je noterais juste, excuse-moi, juste la fin qui m'a un petit peu.
Ouais.
Ouais. Un peu déçu.
Un peu déçu.
Oui. Voilà. Je crois que c'est à peu près le seul reproche qu'on puisse faire à ce bouquin. Moi, j'ai mis que c'était prenant parce qu'effectivement, on enfile les pages comme des perles. On a tout de suite envie de voir la suite. On est vraiment dans un rythme qui est assez important, même dans les moments où ça se pose un petit peu et où on serait effectivement sur cette histoire de Western Spaghetti où tout le monde se regarde dans le blanc de l'œil en attendant de savoir qui va dégainer le premier. Même là-dedans, on a envie très rapidement de tourner les pages pour connaître la suite.
De savoir cet univers aussi, cet tenant et aboutissant, comment il fonctionne.
C'est ça. Pourquoi est-ce que Wolverine ne sort pas ses griffes, bon sang ?
Par contre, il y a un côté, je trouve, un petit peu raté dans le sens où on a l'impression qu'il a essayé de faire une espèce de Dark Knight Return de Wolverine. Dark Knight Return, c'était ça, hein, c'était le vieux Batman. Qui est sur le retour et qui revient après avoir disparu des années. Sauf que j'ai l'impression qu'on en a beaucoup parlé, beaucoup en bien, mais que ça ne va pas laisser tant de traces que ça comme mini-série. C'est un truc sympathique, mais...
C'est clair, oui. Par rapport au bruit qu'on en avait eu et depuis le temps que je t'avais dit, il faut que je jette. Par rapport au bruit, j'ai été un peu déçu dans l'ensemble. Après, il y a quand même des bons côtés. Sur le scénario, tout le départ, je trouve que c'est sympa. Il manque la fin est un peu gâchée, je pense. Au niveau du dessin, moi, je me suis vraiment régalé.
Ouais.
C'est très beau, c'est classe, il y a un vrai côté sombre, il y a des belles couleurs. On est vraiment dans le... Bon, c'est bien bourrin aussi.
Oh, mais il y a une finesse dans le trait. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Steve McNiven, c'est qu'il y a vraiment une finesse dans le trait, même dans les trucs bourrins et gore. Hein.
Bien gore.
Oui
non, parce que là, il a commencé par la fin.
Oui, voilà.
Mais voilà, je trouve que c'est bien mené, mais par rapport au propos de l'époque qui en faisait quand même un truc essentiel, quoi.
Oui.
Un indispensable. Finalement, il n'était peut-être pas si indispensable que ça. C'est très agréable à lire. Moi, j'ai passé un très bon moment, mais je ne pense pas qu'il restera dans ma mémoire, on va dire, comme étant un top du top, quoi.
Ben écoute, moi, contrairement à toi, je pense que ça restera pour moi en mémoire à chaque fois que je verrai Logan. C'est... Je trouve que ça donne une perspective réaliste à ce personnage pour la suite de sa vie. Puisque, pour rappel, il vieillit...
lentement.
Très, 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 très lentement. Et je trouve qu'effectivement, ça correspond bien un petit peu à la noirceur du personnage. On est vraiment dans une évolution qui est tout à fait plausible pour ce personnage et assez logique. Donc moi, ça me plaît beaucoup. Et puis le simple fait de prendre une suite d'histoires où les super-héros se sont fait tataner la gueule bien sévèrement par les super-vilains qui, pour une fois, se sont organisés.
Comme dans Wanted.
C'est ça. C'est pour le coup très intéressant, très bien mené, et ils se sont pas simplement reposés sur ce postulat qui aurait pu être de manière assez feignante un alpha et un oméga. On dit bon ben voilà, on a trouvé l'idée qui est les super héros, les super vilains se sont organisés, ils ont tâtonné la gueule aux super gentils, puis on s'arrête là et il y a rien d'autre. Là pour le coup, j'ai trouvé que tout ce qui, enfin ça finalement n'était qu'une explication à tout le reste. Et le tout le reste est bien sympathique.
Moi, je suis surpris, par contre, qu'il n'y ait pas eu de suite encore.
Oui, parce qu'il y a une suite qui peut être largement envisagée.
C'est très ouvert comme fin. On pourrait imaginer une suite des aventures du Old Man Logan. Et je suis surpris, parce qu'en général, quand un truc a bien marché chez Marvel, ils n'hésitent pas à poursuivre, quoi.
Ouais, mais est-ce que Mark Millar a envie de continuer là-dessus ?
Bah, après, il pourrait demander à quelqu'un d'autre de le faire. Hein. C'est pas ça qui les arrête.
Ouais, mais peut-être que... Peut-être qu'ils se disent qu'après, il n'y a que lui qui peut faire une suite, quoi.
En tout cas, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un truc sympathique de Mark Millar. Parce que les derniers Ultimates qu'on avait lus avec les vampires,
étaient un peu à chier. Alors donc, c'est quand même Old Man Logan, c'est un petit truc à 28€, donc...
Oui, c'est un...
C'est pas donné pour le coup.
C'est pas donné pour le coup, c'est du Marvel Deluxe, hein, collection, belle édition, jaquette, etc., beau papier... L'intérêt, je vais dire, le prix, c'est pour la qualité des dessins qui sont bien mis en valeur par rapport à l'édition. Quoi. Ouais. Après, au niveau de l'histoire, bah, on passe un très bon moment, mais ça reste pas un indispensable, je dirais.
Pour le dessin, vous avez mis quoi comme mot ?
Finesse.
Beau.
Sombrement détaillé.
Voilà, je crois que...
c'est pas bien. Chose à rajouter. Franchement, si vous avez l'occasion de feuilleter ça... Allez-y bien volontiers. Après, effectivement, il faut être un peu motivé pour mettre les 28€.
Dans les bacs. Usagi Yojimbo, numéro 24. On a hésité à le mettre en express il y a 15 jours. Et puis, en fait, Thio a un peu insisté parce qu'il a trouvé ce tome très important.
Bah, disons qu'on arrive quand même au moment... Alors, sans trop spoiler...
Rappelle-nous vite fait qui est Usagi pour ceux qui
donc,
débarquent et qui ne
connaissent
pas.
Usagi est un samouraï
Ronin.
Ronin qui n'a plus de maître, qui se balade donc dans le Japon médiéval.
Avec une tête de lapin.
Avec une tête de lapin.
Enfin, il ne se balade pas avec une tête de lapin, il a une tête de
oui,
lapin.
C'est un lapin.
Voilà.
Et on va donc retrouver donc, des personnages des tomes précédents, c'est-à-dire en fait le démon Jai. On a déjà croisé une première fois et que Usagi avait battu.
Ouais, et qui s'était réincarné dans un autre personnage.
Et on va aussi retrouver un rhinocéros bien connu, mercenaire, c'est Jen.
J'aime beaucoup.
Et chien errant aussi. Et un mystérieux étranger. Et donc là, ces quatre personnages qui vont se croiser, on va dire, dans une région plus ou moins grande, vont essayer de retrouver en fait... la guerrière Inazuma qui en fait est possédée par le démon. Sauf que Inazuma donc est.
Parce qu'il y a il y a sa tête qui est mise à prix.
Sa tête a été mise à prix et donc du coup tous les Pékins moyens veulent à tout prix.
Parce que la somme a été bien augmentée il y a peu.
Mais parce que la personne à qui on avait manqué de respect, d'autres personnes avaient eu la même idée donc il s'est dit il faut que je fasse un exemple donc j'augmente la mise à prix. Alors je trouve que c'est un tome d'Usagi qui est assez sombre. On l'avait classé, je crois, en
conte d'horreur.
Conte d'horreur, voilà. Donc, c'est vraiment un Usagi sombre avec des histoires qui font, qui font peur, quoi. Des démons, des possessions.
Usagi qui fait des rêves étranges.
Usagi qui fait des rêves étranges.
Qui est vraiment en position de faiblesse aussi.
À des moments, on se pose même la question de savoir s'il ne va pas nous faire mourir le lapin.
Ouais, c'est une identification vraiment.
Moi, j'ai trouvé ça assez surprenant, d'une part, parce que c'est la première fois qu'on voit Usagi dans ces positions-là. Le sujet traité, là aussi, on arrive, je trouve, c'est novateur quoi, par rapport à.
C'est très fantastique. Avant, les histoires fantastiques étaient toujours des petites histoires courtes.
Là, c'est un tome complet.
Voilà. Et en plus, Stan Sakai m'avait dit que les histoires fantastiques n'étaient pas vraiment sa préférence dans Usagi, qu'il préférait les histoires qui parlaient plus des us et coutumes du Japon de l'époque, genre celles qu'il avait fait sur la cérémonie du thé, etc., qui étaient des choses qui l'intéressaient un peu plus. Et pourtant, quand il se met à faire de l'horreur, ça en jette pas mal. Et malgré un dessin assez... c'est du dessin animalier, donc on pourrait s'attendre à quelque chose d'assez enfantin. Il arrive à vraiment mettre une belle ambiance horrifique, je trouve.
Oui, non, mais c'est pas lui. Ça, c'est.
De quoi ?
Pardon. Non, c'est en fait, on retrouve aussi d'anciens personnages. C'est par exemple le faiseur d'orphelins du tome 21 que Usagi en fait a rendu aveugle.
Oui, et puis ce que je trouve aussi, c'est qu'il fait revenir plein de personnages qui étaient apparus un petit peu à gauche à droite.
Et qui vont avoir un rôle à jouer dans cette histoire.
En fait, une belle histoire complète. Moi, j'ai passé un très bon moment. Pour le scénario, j'ai mis horreur. Je crois que vraiment, on est dans ce côté horrifique, sympathique, bien foutu, quoi. Pour le dessin, j'ai mis pareil parce que même s'il y a un côté un peu plus sombre de par la thématique, c'est vrai que il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à tout ce qu'on a pu dire dans.
Ça reste tout à fait classique, quoi. Ça reste vraiment tout à fait classique.
En tout cas, une belle histoire encore. Moi, c'est une série, franchement, je suis surpris qu'elle arrive à durer aussi longtemps avec autant de qualité et à maintenir mon intérêt, en fait.
Je pense que ce tome-là, en fait, va un petit peu relancer l'histoire parce que le démon va revenir. Il avait déjà été en grande partie dans une bonne grosse partie du début. Je pense qu'à priori, ça va être la.
Ils font des références aux intrigues précédentes, genre à la lame qui coupe les herbes, là,
ouais.
Etc. On sent qu'il y a vraiment un univers qui est cohérent, qui tient la route. Il n'oublie pas ce qu'il a raconté avant. Alors que pour moi, Usagi, il y avait toujours ce côté un petit peu c'est le gars qui se balade et qui a une petite aventure dans le bled où il arrive, puis il va aller dans un autre bled, avoir une autre aventure. Là, on sent qu'il y a vraiment une continuité dans son univers. Et c'est très bien écrit. Stan Sakai a fait du très bon travail.
On le félicite.
Voilà. Bravo Stan. C'est du beau boulot, mec. 20th Century Boy spin-off. Un tome assez étrange. On vous a déjà parlé de 20th Century Boy. On a parlé longuement quand on en a fait les chroniques il y a très longtemps maintenant. C'était au début du podcast.
Je crois qu'on avait tenté un intégral.
Ouais.
Qui avait été une foirade à peu près complète. On ne serait même plus à s'en rappeler parce qu'on n'avait pas eu le temps de tout relire.
Ouais. On en a reparlé avec Alexis Orsini quand il est venu, forcément, vu qu'on parlait
avec,
de Urasawa.
Avec qui ?
Alexis Orsini. Ouais. Excuse-moi, j'ai du mal à dire Orsini.
Orsini.
Moi, je voulais dire Orsini. Ensuite,
il y avait une sorte d'accent qui est venu.
Comme un Figatel.
C'est une histoire assez étrange.
Tu tiens ta maison, toi ?
En gros, dans 20th Century Boy, dans un des tomes, on se retrouve donc dans le futur, en fait, hein, dans leur futur post-apo. Et il y a des illustrateurs de manga qui veulent redonner ces lettres de noblesse au manga pour faire passer un message au peuple opprimé par Ami.
Car le manga est interdit.
Voilà. Et donc, ils sont hors la loi. Et pour ça, ils demandent les conseils de... J'ai oublié le nom de ce personnage féminin qui dirige un peu la région et la rébellion pour savoir... ce qu'ils doivent mettre dans leur manga. Et donc, cet album est. C'est des successions d'histoires courtes, entrecoupées de. Ils demandent conseil, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?
Ils ne demandent pas conseil, oui. Ils demandent est-ce que c'est bien ?
Oui.
Et à chaque fois, du coup, la personne, je sais que je n'en veux plus le nom non plus, va raconter, va dire non, là, ça ne raconte pas l'histoire d'une libération, vous n'êtes pas en train d'essayer de sauver le peuple, c'est pas bien, il y a tel ou tel défaut.
Et ils essaient de corriger.
Mais sauf qu'à chaque fois qu'ils essaient de corriger...
Oui.
Yukiji. Et donc du coup, à chaque fois qu'ils essaient de corriger, ils vont se retrouver En fait, eux, ils n'ont pas tout compris dans ce que Yukiji leur a dit.
Non, ils sont prendre... débiles.
Ils vont prendre qu'un seul mot. Et le problème, c'est que dans ce seul mot, l'histoire suivante, forcément, va tourner autour de ce mot-là. Et là, on va avoir beaucoup de plaisir à découvrir que, bon, c'est juste pour les fans. Hein. On va avoir de la
plaisir.
On va avoir de la petite culotte. On va avoir du t-shirt mouillé. On va avoir vraiment toutes les parodies possibles et imaginables de...
Bah, de genre. En fait, Urasawa s'amuse à parodier les genres, à la fois graphiquement, hein, dans les codes, etc. Les genres, on va dire, les plus... Enfin, il va... Ouais, tous les excès qu'on peut avoir dans le manga sur ce qu'on appelle le fanservice, hein, c'est-à-dire montrer de la petite culotte, montrer des filles à moitié à poil et faire des histoires un peu absurdes, il va vraiment faire totalement plaisir. Il y a des planches assez hallucinantes. Dans un style graphique complètement qui est assez éloigné de ce qu'il fait d'habitude. Et il va s'amuser à expérimenter plusieurs styles graphiques, en fait, aussi. Vers la fin, il y a une histoire un peu héroïque fantasy, on dirait un peu du bastard dans le style.
T'as l'histoire déjà avec l'Indiana Jones, après oui. T'as l'histoire de médiéval fantastique. Là. Non, c'est super bien fait, c'est très décalé.
C'est pas essentiel, hein. Loin de là.
Ouais, c'est vraiment pas essentiel, mais.
Mais si on a aimé 20th Century Boy, ou bien alors si on s'intéresse un peu à ce côté parodique, très humoristique, parce que c'est complètement débile, il y a de la petite culotte dans tous les sens.
Il y a
une sorte de fixation sur la petite culotte. Hein.
Il y a beaucoup d'autodérision, je pense.
Aussi. D'ailleurs, c'est mon mot pour le scénario, je le trouve culotté.
moi, c'est décalage, voilà.
Classe.
Classe, voilà. Parce que. Je trouve que c'est fun de se permettre ce côté très, très, très léger. Alors que sa série de 120th Century Boy est loin d'être légère, justement.
Ouais, mais justement, la petite parodie à la fin, quand il croise, c'est Kenji ?
Ouais.
Sur la moto ?
Oui, oui.
Quand il, voilà, c'est, oh, il nous faut un héros. Oh, regarde, il est là, c'est Kenji !
C'est notre modèle
de héros. C'est notre modèle de héros.
Et là, moi, Kenji qui tombe parce que sa moto tombe en rade. Enfin voilà, il se permet un peu de démystifier aussi ses personnages. On sent qu'il se fait plaisir, qu'il se prend pas au sérieux. Et moi, je trouve ça super sympa, surtout qu'on a eu une grande série avec les 21 tomes en tout, je crois, tout dans l'ordre de 20th Century Boy.
Tout le style.
De se permettre de se lâcher un peu et de faire ça pour le fun. J'ai bien rigolé.
C'est... Non, mais du coup, même c'était intéressant de se dire oui, c'est vrai, parce que la question, on s'était même posé nous. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme manga ?
Oui, on s'était posé en regardant. Qu'est-ce qu'ils dessinent ?
Qu'est-ce qu'ils dessinent ? Ben voilà.
Pour le genre, d'ailleurs, moi, on avait mis, on a choisi les mots démo parodique. Ce qui est un petit côté démo quand même. Genre, je montre quand même que je suis capable de faire d'autres trucs.
Il peut faire plein de choses, c'est clair.
Mais que je le fais pas parce que, bah. Parce que c'est pas ce que je veux faire d'habitude. Mais que là, pour un cas un peu particulier, je veux bien me permettre de partir dans un bon gros délire. Et je suis persuadé qu'au Japon, il y a des séries qui sont à peine moins parodiques que ça et qui sont totalement dans le genre, quoi. Voilà. Donc 20th Century Boy spin-off, c'est sorti chez Panini Manga. Et c'est plutôt sympathique. Donc si vous aimez 20th Century Boy, ça vaut le coup. Si vous vous intéressez un peu à la parodie, on peut même le lire sans avoir lu 20th Century Boy, c'est pas très très grave. Ça vous spoilera pas grand-chose de la série, en fait, on va dire. En tout cas, moi, j'ai bien rigolé. Le magasin des suicides. Une bande dessinée de Olivier K. et Domitil Collardet, d'après le roman de Jean Tellet.
Alors, on est en plein dans l'actualité, puisque le dessin animé est sorti au cinéma au mois d'octobre.
Ouais.
Et donc là, c'est l'adaptation bande dessinée du roman.
Pas du dessin animé.
Mais pas du tout du dessin animé. Et d'ailleurs, le style graphique
rien à voir.
Diffère complètement de ce qui a été proposé dans la version animée. L'histoire, c'est l'histoire de la famille... Ouh, j'ai oublié
Tuvache.
La famille. Pardon, la famille Tuvache, c'est ça.
En gros sur
qui possède donc un magasin dédié uniquement aux mille et une façons de se suicider. Donc un bon client est un client que l'on ne voit qu'une seule fois.
On lui dit adieu quand il s'en va.
On lui dit adieu lorsqu'il quitte la boutique, puisque tout est fait pour que cette personne-là, quand elle rentre...
Elle soit satisfaite,
et donc elle n'a plus besoin de revenir dans le magasin. Et du coup, toute la famille fonctionne sur ce modèle-là, où on déifie la mort, le suicide, c'est l'absolu à atteindre. Et puis,
ils sont très bons commerçants, hein, ils veulent pas vendre de la Kaamelott.
Ils sont très consciencieux, voilà. C'est un magasin qui se transmet de père en fils, attention quoi.
C'est un travail sérieux.
Donc c'est du travail sérieux, exactement. Donc il y a un couple qui possède en tout 3 enfants et le petit dernier est le grain de sable dans cette merveilleuse mécanique du suicide.
Il sourit.
C'est ça.
Il commence à se poser des questions. Quand il le voit sourire.
C'est ça. Première page. Oh, il sourit. Comment ça ? Mon fils sourit ? Voilà comment tout commence. Et effectivement, c'est la tache de couleur dans toute la bande dessinée. On se rend compte qu'au fil des pages, la couleur prend de plus en plus d'espace.
Il est contagieux.
Ça devient contagieux sur les pages de la bande dessinée, de la même façon que ça devient contagieux au sein de sa famille. Et il fait évoluer tous les membres de sa famille petit à petit. Alors après, il y a tout un tas d'autres choses qui viennent se greffer dedans, on va pas spoiler toute l'histoire. Toujours est-il que c'est extrêmement bien mené, c'est extrêmement bien écrit, je pense, à la base. Le roman de Jean Tellet a fait un gros carton.
En tout cas, ça doit être très bien adapté, parce que j'ai à aucun moment senti qu'il y avait un roman derrière.
C'est ça, exactement. Ça aurait pu être une bande dessinée créée intégralement.
Alors Jean Tellet était scénariste de BD, je crois. Il avait déjà fait de la BD derrière. Donc en plus, je pense qu'il doit adouber ce genre de truc-là quand même. J'imagine qu'il doit choisir les équipes qui travaillent derrière. Enfin, il doit... pas les choisir, mais au moins dire oui, ça je suis d'accord ou pas. Enfin, j'espère en tout cas qui va y derrière.
Jean te l'éprouve.
On a dit que c'était du genre, que c'était une fable noire.
Oui.
Voilà, parce qu'on est vraiment un peu dans la fable. Il y a une espèce de morale à la fin. Alors la question, ça c'est les spécialistes de l'éducation. La différence entre le conte et la fable, c'est que la fable, il y a une morale.
Alors après, la morale n'est pas toujours aussi pointue, précise et écrite que ça. Mathieu ne la voit pas forcément, moi je la vois. Alors après, c'est chacun y trouve ce qu'il veut. Mais il s'arrête.
Alors, au niveau du dessin, oui, tu disais.
Au niveau du dessin, c'est pas ce que j'aurais vu, c'est pas ce que j'aurais aimé voir. Effectivement, moi, ce à quoi je m'attendais, c'est la façon dont ça a été traité dans la version animée qui est sortie au cinéma.
Qui est beaucoup plus satirique, un peu la Bill Plimpton, tu vois.
Voilà, c'est ça.
Animé. Là, c'est pas le cas. C'est plus doux.
Voilà, moi, je voyais un truc Lascar. Voilà, au niveau du trait graphique, j'aurais voulu quelque chose qui se rapprochait des Lascar. Et on est très loin de ça. On est sur des traits qui sont très doux, très simples, très épurés pour les personnages, etc.
Des tons un peu pastel.
Voilà, exactement.
Tout en finesse.
Alors même si c'est sombre au début et que ça se colore petit à petit, mais on est vraiment dans cette idée-là. Et ça crée un contraste qui est très intéressant.
Moi, j'ai beaucoup aimé les dessins. Je trouve que c'est vraiment, ça colle super bien justement avec ce côté très très sombre, de voir cette douceur qu'il y a d'ailleurs vers l'enfant qu'il arrive à transmettre petit à petit avec ses couleurs. Moi, ce qui m'a surtout marqué en fait, c'est le côté architectural, ce côté plan, ce côté découpe. C'est la maison vraiment l'héroïne de l'histoire, et on le voit à plusieurs reprises où on a des images où on voit la maison en coupe en fait, et on voit toutes les pièces les unes au-dessus des autres, etc. Avec des effets de relief super sympas. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé le travail de Domitil Collardet au niveau du dessin. J'ai trouvé ça très très classe, avec plein de bonnes idées en fait.
Et puis c'est traité un petit peu comme un huis clos. Hein.
Ouais.
Comme tu disais, la maison et le cœur, c'est l'élément principal. Effectivement, tout se passe dans ce magasin.
Oui, on n'en sort pas.
C'est comme une pièce de théâtre, c'est comme un huis clos, on est vraiment dans ce décor-là.
Et puis, il y a un travail sur le gaufrier aussi, vraiment quelque chose de très carré, bien positionné. On a vraiment l'impression de se balader d'une pièce à l'autre. Enfin, je trouve que ça tient vraiment la route à ce niveau-là. Et puis, on voit en fait que la déco de la maison est en train d'être refaite petit à petit. Quoi, hein. C'est ça l'idée, avec la couleur qui envahit le tout. Et la famille qui le vit plus ou moins bien.
Ben, certains membres le vivent bien, d'autres le vivent beaucoup moins bien. Voilà, ben, c'est le reste de l'histoire, ça après on ne va pas tout vous dire, mais c'est très 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 intéressant. Moi au niveau du dessin, j'ai noté perspective, parce qu'effectivement il y a un travail sur l'architecture, mais aussi sur les points de vue. Même sur les toutes petites cases, on peut avoir une vue de dessus, une vue en contre-plongée, etc. Enfin, les choses sont très très bien réfléchies.
T'as pas entendu?
Eh ben non, parce qu'en fait je vous écoute, mais je suis pas spécialement d'accord en fait. Moi j'étais plutôt déçu par
Sorti.
Mais j'aime bien les discussions avec vous les gars, c'est ouvert et tout, ouais, c'est sympa. Non, j'étais plutôt très déçu en fait moi.
Pierre, coupe le micro pendant ce temps.
Chut, il parle. Arrête de le couper. Voilà, pour une fois que c'est pas moi.
Voilà, ça s'est fait. Alors donc, non, plutôt déçu par le dessin. Moi, je m'attendais. Alors, soit on avait un. Ben, j'ai vu, on va dire, les images au départ du film d'animation. Donc, du coup, j'aurais bien aimé ce style de dessin-là. Ou alors quelque chose de plus réaliste. Mais en fait, je me suis retrouvé un peu déçu par ce parti pris que j'ai trouvé un peu enfantin, quoi. Et,
oui.
Et ça, pour moi, ça, j'ai pas trop accroché. Bon, le scénario, je l'ai trouvé excellent. C'est très bien mené. Tout est très bien amené.
Très jolie chute.
Pas mal. Mais voilà, non, le dessin, moi, ça m'a pas vraiment emballé. Là, vous êtes à fond dedans, c'est splendide. Mais architecturalement, je suis d'accord, il y a beaucoup de choses, mais ça m'a pas donné vraiment plus envie que ça, quoi.
Et au niveau du scénario, tu disais que ça t'avait plu.
Là, juste sur les personnages, quoi, je trouve qu'il n'y a pas assez de caractère en fait sur le dessin. C'est ouais. Trop. Tous les personnages sont lisses. Il y a que quelques petits artifices qui vont les différencier. Ils sont reconnaissables, certes, mais c'est pas. Il n'y a pas assez de détails, quoi, pour moi.
D'accord. Voilà.
Maintenant, ouais. Au niveau du scénario, ouais. Donc clairement, je trouve que déjà l'idée en elle-même du magasin des suicides. Voilà, le kit pour les désespérés, t'as tous les trucs, mais...
T'apprends les règles pour les mineurs, parce qu'il y a une règle spéciale.
Ouais, puis après, voilà, non, mais vos plafonds sont à combien, vous voulez combien de mètres de corde, vous inquiétez pas, la corde est déjà prête, vous n'avez plus qu'à mettre la tête dedans, le nœud est fait, tu vois, c'est...
Non, on vous garantit que le nœud est de très bonne qualité.
Tout est nickel, quoi, c'est super.
Un petit peu cynique, hein.
Ah oui, complètement.
Très, très humour noir, quoi.
Moi, j'ai mis sourire au niveau du scénario pour le mot, parce que malgré tout cet humour noir, on a un sourire dedans, et puis il y a un petit côté espoir justement de cet enfant qui sourit tout du long et qui illumine vraiment toute l'intrigue.
Moi, j'ai une psychologie inversée. On est sur le contre-pied. On est sur une société qui fonctionne totalement à l'envers.
Oui.
Et ce petit enfant-là, du haut de ses quelques années, puisque bon, il est quand même pas bien grand, même à la fin de l'histoire, alors qu'il grandit, on parle de
sa petite jeunesse. Il s'appelle Alan, justement.
Ouais, ce petit Alan.
On va lui donner
un
nom.
Et donc, il va faire en sorte de rétablir un petit peu toute cette société-là, quoi.
Ça t'a plu, ça. Hein.
Cassé. C'est parce que c'est un micro jaune, tu vas casser. Donc. On n'est pas d'accord, mais chacun pour de bonnes raisons. En tout cas, moi, j'en recommande quand même, parce que j'ai passé un très très bon moment. C'est une très belle adaptation.
Je n'ai pas lu, même si j'ai pas apprécié énormément le dessin, en tout cas, ça reste un bon bouquin.
Hein. Mais tu dis que tu n'as pas apprécié le dessin, c'est juste que tu trouves qu'il n'est pas adapté. Ou c'est que tu n'aimes pas le style.
Non, c'est que moi, je ne m'attendais pas à ça.
D'accord. T'as une déception, en fait.
C'est une déception au niveau du dessin. Je m'attendais pas... Enfin, j'aurais voulu autre chose, voilà. C'est totalement personnel, hein, comme choix. J'aurais aimé un autre type de dessin.
Eh D'accord. bien, tu peux le redessiner.
toi-même, tout seul, chez toi.
Tout seul, chez toi, régale-toi.
Un petit détail. Alors,
tu prends tes criots là et tu fais ça le soir devant la télé.
Ça, je l'ai pas vérifié, mais est-ce que j'ai pu comprendre, la fin est dans le roman et dans la BD sont les mêmes, mais elle est différente au cinéma. Ils ont changé la fin au cinéma.
Ah bon, on fait du politiquement correct.
Ouais, c'est ça.
Mm-hmm.
Voilà. Mm-hmm. C'était juste pour information.
Ouais, mais ça, c'est pour que les enfants puissent aller le voir au cinéma.
Ah oui, c'est un film d'animation, c'est forcément ça.
Vivement qu'ils sortent en DVD avec les deux fins.
Peut-être.
Ha ha.
Love, le renard.
Love, 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 love. J'attriste ma défense, ces jeux-là ne me disent
bien, que... vas-y, parle, tu vois, couvre-le, dis quelque chose. Dis le nom des auteurs qui sont marqués sur la couverture.
Alors, Frédéric Brémaud.
Avec plein de R.
Avec plein de R, c'est surprenant. Et Federico Bertolucci.
Bertolucci.
Juste une petite coupure. Il chantait quoi, là?
Il chantait du tété. Voilà, mais j'ai reconnu. Voilà.
Donc, c'est chez Ankama, ça s'appelle Love le renard.
Il existe Love le tigre.
Oui, qui est un premier tome. Mais ça n'a rien à voir.
C'est le tome 2. Voilà, c'est le deuxième Love, mais là, c'est le renard.
Love 2.
Le retour.
Le renard.
Alors, nous allons donc suivre l'histoire donc, d'un...
Renard.
Ou d'une renarde.
D'un goupil.
Un vil goupil.
Plutôt une renarde. Hein.
Qui va donc essayer de survivre sur une île volcanique qui est rentrée en éruption. Et on va suivre son petit parcours effréné entre tous les animaux qui...
Digne des meilleurs documentaires animaliers.
Dans la lignée des grands documentaires animaliers.
C'est écrit sur la couverture. C'est un peu bizarre, hein, mais...
C'est le petit ouais. autocollant qui est mis dessus.
Je trouve cet autocollant très étrange. Mais bon.
Donc c'est un récit sans texte. Il n'y a que l'image. Après, bon, voilà, on colle pas.
Bon,
je vais pas aller plus loin dans l'histoire parce qu'après sinon je révèle.
Oui,
ce
bah
qui
on
se
le suit, ses péripéties sur cette île, et voilà, essayer de s'en sortir. Moi, j'ai trouvé ça superbe graphiquement. J'ai mis waouh, hein, ouais. C'est très bien raconté, c'est beau, la mise en scène, la narration est très belle. Franchement, c'est une très belle bande dessinée, très bien racontée, un travail d'orfèvre, j'aurais tendance à dire. Les couleurs sont magnifiques. On voit qu'il y a eu un vrai travail sur de documentation animalière.
D'ailleurs, il y a des petites pages avec
ouais,
des croquis
à la fin qui montrent que il y a eu un vrai boulot très grande qualité à ce niveau-là. À vous sur le dessin.
Moi, j'ai mis splendide et rythmé. C'est comme un road movie animalier. Et on suit cette renarde et on est vraiment, enfin moi en tout cas j'ai été vraiment pris dans le rythme de sa course où il faut absolument qu'elle, on ne sait pas pourquoi, mais
qu'elle s'en sorte parce qu'elle va mourir si elle se prend le volcan.
On la voit fuir à toute berzingue sur cette île qui est en train de s'autodétruire et c'est voilà, je trouve que le rythme est excessivement bien rendu. Par le dessin, par les vignettes, par la couleur, enfin voilà, c'est absolument génial. Le dessin est vraiment superbe.
Moi j'ai mis magnifique. Bon, ça a été mon choix au départ de prendre cette bande dessinée.
Oui.
Ah.
C'était un bon choix, tu vois.
Voilà, je suis tombé.
Vas-y, fais pardon, fini.
Je suis vraiment tombé voilà en admiration devant les planches donc animalières qui sont vraiment de toute beauté. Et c'est vrai que alors du coup c'est drôle de dire à la lecture.
C'est la lecture, tu.
Et oui, non, c'est de la lecture, mais en même temps tu ne lis pas quoi. C'est.
Si.
Oui, mais oui, non quoi.
C'est pas rentré dans la théorie de la BD, mais.
Voilà,
si.
Mais à la lecture donc de cette bande dessinée, je me suis.
Et c'est enseignant ça.
On va avoir des discussions qui vont devenir.
Non, la lecture séquencée d'images.
Alors.
Lecture du document visuel.
Dida quoi au fait?
Dida qui?
Dida qui, voilà. Cette lecture, moi, je me suis finalement retrouvé à un moment, presque, voilà, comme tu disais, tu vois, ce rythme effréné, je trouvais ça haletant, quoi. Le scénario en lui-même est haletant. On va suivre cette fuite, mais comme si à un moment, il y a une moment d'apnée, presque, tu retiens ton souffle, le temps des cases, quand tu fais un saut, tu as presque envie de sauter avec le personnage, quoi. C'est. Quelque part, tu rentres dans l'action.
Puis c'est très difficile, en plus de faire de la BD muette, parce que tu peux utiliser aucun artifice, il n'y a même pas d'onomatopée. Hein. Je ne crois pas en avoir
rien. Ouais. Il n'y a pas un paf, un blanc, un broum.
Très difficile de raconter quelque chose comme ça, et c'est magistralement réussi. Ouais. Par contre, là, on va revenir au scénario. J'ai trouvé ça vide, c'est mon mot pour le scénario, parce que. Mais j'ai beau avoir trouvé ça très bien raconté et très beau, la chute est intéressante, parce qu'il y a quand même une petite chute pour justifier toutes ces péripéties, mais j'ai pas trouvé ça intéressant au niveau de l'histoire, en fait.
L'histoire n'est pas intéressante. Ce qui est intéressant, c'est ces minutes ou ces heures de course effrénée. Donc moi, pour le scénario, j'ai marqué « rythmé ». Parce qu'effectivement, de scénario d'histoire en tant que tel, c'est extrêmement pauvre. Mais ce qui est intéressant, c'est la course.
Là, je fais un quelque part, je vous pose une question, c'est en quoi un scénario va être riche, quoi. Parce que là, en quoi c'est pauvre? Vous avez de l'action, vous avez du suspense.
Ça manque de sexe.
Oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas de sexe, je suis d'accord avec toi. Mais quelque part...
Dans les documentaires animaliers...
Il y a toujours du sexe.
Parce que dans le documentaire, il y a...
Mental. Donc, il y a les docs en fait, c'est ça? Il y a les docteurs qui passent. Il y a toutes les phases d'un récit, mais ouais, c'est sûr, t'as pas le texte, mais moi je l'ai pas trouvé pauvre, au contraire, quoi. C'est très riche en action, c'est très riche en rebondissement, en personnages secondaires. C'est bien mené quoi, et puis voilà, le scénario est pas pauvre quoi. Là, je suis désolé les gars, mais je suis pas du tout d'accord avec vous.
Moi, j'ai passé mon temps à lire, à me dire c'est super bien fait, mais où je vais quoi? Pourquoi est-ce que je suis en train de...
Moi, je m'en suis un peu foutu en fait, du fait qu'il n'y ait pas de scénario.
J'ai trop voulu, je crois que j'ai trop intellectualisé en fait en le lisant, à chercher quelque chose. Alors qu'effectivement, t'as peut-être raison, il y a pas besoin de ça dans cette BD là, mais moi je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé, et pour le coup, je me suis ressenti un peu con quand je suis arrivé à la fin. Je fais c'est tout.
Moi je suis entre vous deux, c'est-à-dire que je suis comme toi pied dans le sens où j'ai pas trouvé qu'il y avait un scénario particulièrement intéressant. En tout cas, c'est rien de bien novateur, mais on s'en moque. C'est pas le propos. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est justement ce rythme, cette course, et c'est particulièrement bien rendu. Le dessin qui est très très beau, les couleurs qui sont absolument splendides. Voilà, c'est un petit moment de voyage, c'est un petit moment de balade, c'est très bien fait.
Moi je me posais la question aussi par rapport au tome 1 qui a eu un très bon accueil, Love le Tigre, c'était le premier tome. Si c'est le même concept, je me pose la question de... dans ce cas-là, pourquoi faire une suite quelque part? Pour montrer d'autres animaux? Pour montrer d'autres jolies images?
Alors, moi, c'est là-dessus que j'ai mis un truc, un petit bémol. Cette île, elle est très sympa, mais elle doit être un peu gigantesque pour arriver à abriter toutes ces espèces d'animaux qui ne vivent pas du tout dans les mêmes conditions climatiques.
Je ne suis pas sûr, mais bon...
Un ours brun des montagnes avec un ours polaire, il va falloir que tu me le trouves.
C'est parce que la banquise dérive et qu'il était sur le bout qui dérivait vers là.
Ah putain, mais alors ça a dérivé de chez dérivé quand même, hein.
Là, je ne suis pas sûr, je suis pas zoologue. Donc,
je n'irais pas tant que ça, parce que quelque part, on trouve quand même en Californie, et bon, c'est pas non plus
les
si
ours polaires.
Attends, non, sur l'île de Lost. Il y en a sur l'île de Lost, alors je suis Lost. Désolé.
Ah oui, c'est sûr, pardon. Lost, cette grande référence.
Moi, je te dis, un ours polaire se met n'importe où. Hein. Ils allaient en Australie quand ils allaient sur l'île de Lost.
Un ours polaire équatorial, je veux dire. À un moment donné, c'est possible.
Mais après, là, j'avoue que je préfère pas juger, je suis pas zoologue. Donc
mais moi, en tout cas, je me trompe peut-être lourdement, mais en tout cas, moi, ça m'a interpellé d'avoir des animaux d'horizons aussi divers et variés qui puissent se rencontrer. Maintenant, je sais pas si problématique que ça. Le réalisme n'est pas forcément la pierre angulaire du bouquin. Donc,
Beaucoup d'expressions dans les personnages, dans les animaux aussi. Il a réussi à les rendre très expressifs. C'est une grande réussite, quoi.
Et là, moi, il y a une image, en tout cas, avec les espèces de... C'est pas des bisons, une sorte de vache laineuse.
Ouais.
On dirait des vaches écossaises.
Même non, si... non. Les Lenco, elles n'ont pas les cornes.
Ouais, bon, enfin oui, donc
enfin, bon, ça y ressemble.
Ces trucs là, ces animaux, ces bovins.
Ces bovins, voilà, qui se jettent dans le vide, ça me fait penser au, c'était le clip de U2. C'était c'est un vieux clip. Hein. Mais du coup, avec les bisons qui se jettent de la falaise, ouais, à mon avis, il y a quand même un gros rappel.
Par contre, juste le combat des ours, c'est très Booba aussi.
Allez, c'est quoi, voilà, je te ferai pas de signe cabalistique de reconnaissance, mais tu sais d'où il vient celui-là. Par contre, peut-être que du coup, t'aurais préféré que l'histoire soit dessinée comme ça, avec un petit renard comme dans les croquis, c'est
il
ça
est trop mignon,
le petit renard dans les croquis est trop mignon.
Il est trop mignon, celui-là.
J'ai adoré. Ce petit renard un peu kawaii, là, un peu bouboule, moi j'adore.
Un peu bouboule.
C'est une patate avec 4 traits pour les pattes.
Ouais, j'adore.
Il a fait 14 burgers et dans le doute, il a bouffé les emballages avec.
Et je l'ai dit, le dessin, tout ça, je trouve ça génial. Maintenant, voilà. En tout cas, franchement, on peut se laisser, je pense, embarquer par le dessin. Moi, ça n'a pas marché. Vous, ça a marché. C'est chez Ankama. On n'a pas dit.
Pour la modique somme de AKM 21.
Voilà. Il faut vraiment un jour qu'on ait un transcripteur de code direct. Pourtant, on l'avait, l'affiche. Hein. On ne l'a jamais imprimé.
C'est ça.
On est des abrutis. Je sais pas. En plus, ça change de temps en temps. Donc, Love, le renard.
Très beau.
Chez Ankama. Très, très joli.
Blotch! Page!
Imaginez un monde où l'électricité n'a pas remplacé la machine à vapeur. Un monde au bord d'une nouvelle guerre mondiale. Où les intrigues politiques ont atteint les plus hautes sphères politiques britanniques. Où les espions ont infiltré la moindre parcelle de pouvoir. Face à ce drame qui se profile, se dressent deux héros. Un homme, savant mélange entre l'intelligence d'un Sherlock Holmes, plus adepte de la bière et du whisky que de certains opiacés. La pudeur d'un Dr. Watson et l'emportement d'un capitaine Haddock au sommet de son art. Une femme digne réincarnation de Mata Hari au service du bien. Le charme et l'intelligence. L'intelligence du charme. D'un côté la pipe, de l'autre les bas. Un diptyque où héros, savant fou, espion, serial killer se côtoient pour nous offrir de l'action, des intrigues et bien sûr, de l'amour. Ne ratez pas Vieille Bruyère et Bas de Soie. Déjà le 12 dans les salles.
Vieille bruyère et bas de soie de Étienne Willem. Alors,
chez Paquet.
Chez Paquet. C'est sorti pour l'instant dans une première partie en 2 tomes. Et il y a un 3e tome qui est sorti.
Oui, qui est déjà sorti à un moment. Mais on va parler des 2 premiers tomes.
Et là, nous allons parler donc des 2 premiers tomes.
Qui sont une histoire complète.
Qui sont une histoire complète. Étienne Willem, petite bio rapide, c'est un Belge qui a fait ses études en Belgique. Et qui travaille,
ouais, mais
qui a travaillé au Luxembourg.
Il est allé loin.
C'est ça. Ouh, il s'est éloigné de chez lui. Il a pris le bus. Et donc, bon, ceci étant dit, Vieille bruyère et bas de soie, c'est son premier travail.
Son premier.
Première œuvre parue.
D'accord.
Et je trouve que globalement, pour une première œuvre parue, ça tient carrément la route.
On n'aurait pas fait une splash page si ça n'avait pas été le cas.
Depuis, il travaille sur un autre projet qui s'appelle L'épée d'Ardenois. C'est visiblement, d'après ce que j'ai pu lire rapidement, un projet qui lui tenait à cœur pour pouvoir travailler avec des personnages animaliers.
Ouais.
Donc voilà, pour l'instant, sur ce nouveau travail-là, je n'y connais pas grand-chose.
Je pense un peu à Rouge Muraille, ce que je vois là, L'épée d'Ardenois.
Je te fais confiance là-dessus.
D'accord.
Et donc, voilà, ça sera peut-être l'occasion de reparler d'Étienne Willem une autre fois. En ce qui concerne l'émission d'aujourd'hui, Vieille bruyère et bas de soie. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un bas de soie, une vieille bruyère, c'est une pipe.
Vieille bruyère, c'est une pipe.
D'où la petite référence tout à l'heure dans l'introduction des pipes et des bas. Non, Pierrick, tu arrêtes de ricaner comme ça. Nous sommes dans une émission culturelle, s'il te plaît, élevons le niveau. Donc, cela raconte l'histoire d'un inspecteur, l'inspecteur chef Arbuckle, un gros monsieur bien moustachu, qui est un inspecteur avec de la trempe, avec une pipe, et qui bosse pour Scotland Yard et qui va donc mener des enquêtes au plus haut niveau. C'est vraiment l'inspecteur fouine, tel que ses supérieurs ne peuvent pas vraiment supporter. Lorsqu'on lui dit d'arrêter quelque chose, il continue malgré tout à fouiner sur son temps perso, etc.
Ouais, le bon vieux cliché de l'inspecteur à qui on dit « ce serait bien que vous arrêtiez d'enquêter sur ce haut dignitaire » et qu'il le fait quand même.
Exactement. On est exactement dans cette philosophie-là, et c'est effectivement ce qui se passe dans ces 2 tomes. Sans vouloir trop spolier l'histoire, tout ce qu'on a pu raconter tout à l'heure dans notre splash avec Thio, ça correspond vraiment à ça. Il y a des espions, il y a des intrigues policières, il y a des savants fous, il y a des
vaches écossaises. Furieux,
et il y a des vaches écossaises. Non, ça n'a rien à voir, regarde Mathieu, la forme des cornes. Enfin, je veux dire, toi qui as fait des clés de classification, tu peux pas me dire un truc pareil. C'est pas
possible. En gros, tu es en train de sortir Love et un extrait de Vieille Bruyère pour montrer qu'en Écosse, il y aurait les mêmes bêtes qu'il y a dans Love. Ah bon, après, je ne vais pas juger.
En même temps, il y a autant de cornes que de cornues, quoi.
Laisse-le finir, c'est son histoire.
T'en prie. Et donc voilà, donc l'inspecteur Arbuckle va donc enquêter sur des histoires très troubles. Merci de mettre le la BD à l'envers, Mathieu, ça m'aide beaucoup. Premier tome qui s'intitule La Tache Noire, 2e tome qui s'intitule Murder Party, et où se mêlent donc des enquêtes policières avec une finesse, je trouve, au niveau de la construction et des déductions. Qui pourrait se rapprocher d'un petit Sherlock Holmes au niveau de l'ambiance, avec une assistante qui pourrait être Madame Watson.
Même s'il s'en démarque, à un moment il fait, je veux dire, si je voulais faire Sherlock Holmes, j'appellerais Monsieur Doyle. Hein,
exactement. Exactement. Mais on sent quand même que lui-même pouvait se rendre compte que ça pouvait être dérivé là-dedans, en tout cas pour les lecteurs que nous sommes. Donc le scénario, on va pas en compter plus. Ça tient la route du début.
On peut commencer par dire un peu le début. En gros, lui, il en veut un gars. On peut le dire. Il en veut un dignitaire qu'il essaye de faire tomber, et il a réussi à choper son comptable.
Voilà.
Qu'il veut faire témoigner et qu'il a mis, qu'il protège chez lui.
C'est ça.
Sauf que le gars se fait
dézinguer,
et en parallèle, il y a des meurtres de prostituées.
Exactement. Accessoirement, lui-même se fait impliquer dans cette affaire-là.
Et il y a une série donc de meurtres par rapport à ce mec qu'on retrouve avec une tache noire, une sorte de bout de tissu noir dans la main.
Un tissu noir qu'on retrouve à chaque fois à proximité
de
L'île au trésor.
L'île au trésor, oui.
Et donc tout ceci est très imbriqué. Les bas de soie, me direz-vous,
Non, ce n'est pas l'inspecteur Arbuckle qui l'aimait, hein, bien évidemment.
Quoique, c'est Miss Macmillan.
C'est Miss Macmillan, Indra, pour les intimes. Aucun rapport avec la...
Non, Millie, c'est son ex-femme.
Non, Millie, c'est son ex-femme. Indra, pour les intimes, aucun rapport avec la chanteuse. Qui est donc une jeune femme extrêmement charmante. On a un petit peu du mal à lui donner un âge, je trouve, dans la BD, parce que graphiquement, elle pourrait être très jeune. Et au niveau du scénario et du relationnel qui est entretenu avec l'inspecteur Arbuckle, ça tendrait quand même à ce qu'elle soit un petit peu plus âgée.
Moi, je la laisserais assez jeune, une vingtaine bien tassée.
Bref, toujours est-il qu'elle est la nièce du Premier ministre
Enfin, d'un haut dignitaire.
D'un très haut dignitaire anglais, puisque quand même tout ceci se passe en Angleterre. Et donc, c'est elle qui est extrêmement charmante.
Et en Écosse.
Et en Écosse ensuite.
Les vaches. Et les vaches. Les vaches écossaises.
Moi, ça t'a plu les vaches, toi, quand même.
Il faut que tu finisses.
Tu as un truc avec les cornes. C'est elle qui incarne le charme dans cette série.
Oui.
Elle incarne la beauté, mais à la fois l'intelligence, la ruse. C'est pas du tout la petite femme mijaurée, timide que l'on pourrait voir dans cette Angleterre du début du XXe siècle, globalement. Hein. Ah, Mathieu, tu m'as l'air...
Je crois que c'est plutôt 1935, il me semble. C'est...
Eh ben, début du XXe siècle, ça se passe aussi, 1935 ?
Première moitié du XXe siècle.
Ouais, enfin, ouais. Première moitié du XXe siècle, quand même. Si enfin, bon, après...
Bon, ça ne changera pas grand-chose, de toute façon, aux choses.
Non, c'est vrai. Là, je te laisse.
Et donc voilà, donc ce scénario qui tient extrêmement bien la route. Là aussi, on est sur quelque chose de très haletant. Oui, Mathieu ?
Rien. Il est encore en train de montrer des trucs pour te contredire.
Oui, automne 1935. À l'automne. À l'automne.
Ah, et l'automne, c'était plus tôt, tu vois, dans l'année.
Ouais, tu avais raison, Mathieu. Donc, le scénario
c'est un nageur, c'est ça ?
C'est un nageur qui m'a montré. Le scénario est extrêmement bien construit. C'est extrêmement riche, l'air de rien, je trouve, pour deux tomes. Je trouve qu'il y a énormément d'imbrications, d'informations, de données, de petites choses que l'on croise à droite, à gauche. C'est vraiment très intelligemment construit au niveau du scénario. Et tout ça servi par un dessin.
Moi, je trouve que justement, c'est un peu alambiqué. Le scénario est un peu alambiqué. Moi, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, j'ai loupé le tome précédent.
Alors non, parce que je trouve que c'est pas alambiqué du tout, c'est vraiment...
À la fin, tout est limpide.
Oui,
c'est
à la fin,
comme...
oui, c'est limpide.
Non, mais c'est comme un Sherlock Holmes.
C'est ça.
Tu le lis, tu as donc des informations qui viennent à peu près en tous les sens. Tu en as une sur deux, parce que forcément, Sherlock Holmes, lui, il en a une deuxième que toi, tu n'as pas vue, mais qui à un moment ou un autre va te péter à la gueule. Et ben, c'est exactement ça. Mais du coup, quand tu le lis, moi, je trouve que ça reste quand même très fluide. Et c'est vrai que finalement, d'un coup, tu as le commissaire Maigret avec sa pipe qui arrive et qui te fait « mais c'est bien sûr ». Et
là, top. Moi, j'étais un peu perdu quand même sur le début, parce que je ne savais plus trop où j'allais. Il faisait référence à des personnages qu'on ne voyait pas, mais il y avait deux enquêtes en parallèle. J'arrivais pas à trop comprendre comment toutes les choses se liaient. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'intrigue... En fait, j'ai trouvé les quatrièmes de couverture super utiles.
Je ne les ai pas lus.
Bah, moi, j'ai lu les quatrièmes de couverture et j'aurais eu du mal à rentrer dans le scénario si je les avais pas lus, parce qu'ils m'ont vraiment aidé à bien comprendre les enjeux à chaque fois de chaque enquête, parce que ça part, je trouve, vraiment de tous les sens et on ne sait plus trop où on va. C'est dû à la richesse du scénario, hein. C'est-à-dire que c'est un peu comme ces romans policiers où tu reviens un peu quelques pages en arrière pour voir si tu as bien compris. Parce que tu dis, attends, il y a ce truc-là, il faudrait que je revienne parce que.
Je l'ai fait une fois justement pour. Le personnage que l'on ne voit pas au début et qui apparaît plus tard.
Sir Walter.
Oui, c'est celui-là. Walter Rutherford. Qui, effectivement, disparaît au début, meurt au début. En tout cas, dans un accident de voiture. Et effectivement, comme c'est un personnage qu'on n'identifie pas graphiquement parce qu'on ne voit pas son visage,
oui, et puis au départ,
c'est compliqué d'arriver à mettre, enfin moi c'est comme ça que je fonctionne en tout cas, un nom, un visage quoi. Pour
et puis
arriver
la,
à
la scène où on le voit avoir son accident de voiture, on n'arrive pas tout de suite à identifier que c'est lui. Je crois que je suis pas sûr que son nom soit nommé aussi brièvement à un endroit.
Il est nommé dans une bulle par un personnage qui est à côté et qui crie son nom, me semble-t-il.
Donc c'est pas super clair. Enfin, moi j'étais un peu perdu au départ.
C'est le seul moment où je suis revenu une page en arrière en me disant. Est-ce que c'est bien de lui dont on parle ?
Après,
ça, c'est
ça
au tout début, parce qu'effectivement, on n'est pas encore dans l'intrigue, on n'a pas encore bien mémorisé le nom de tout le monde.
Mais après, bah en fait, je trouve qu'il met vraiment une media res. Tu vois, tu rentres vraiment, il y a son intrigue qui est déjà commencée, oui. C'est déjà démarré. Et moi, c'est ce qui m'a fait bizarre, parce que je me suis dit, merde, j'ai raté un premier tome, c'est pas possible, il me manque une info. Tu te rends compte après que non, que c'est juste que c'est bien construit, qu'il veut nous mettre de suite dans le scénario. Mais sur le coup, je savais pas trop où j'allais, quoi.
Bah écoute, voilà, hormis ce petit moment-là, sinon, franchement, ça pose absolument, enfin, moi, ça m'a posé absolument aucun problème. Tout est fluide, et là encore, c'est extrêmement bien rythmé. On enchaîne les pages les unes à la suite des autres, on a très envie d'avancer. Justement, le scénario étant très riche, il en devient très intéressant parce que c'est bien géré, c'est bien mené. Bref, un excellent moment de lecture. Moi qui suis très fan de ce genre d'histoire, hein, que ce soit en roman, que ce soit sur des séries télé, même vieillottes, je suis très très fan de ce genre d'histoire policière. Ça fonctionne très bien. J'ai commencé à entamer le côté dessin que je trouve justement très moderne. Toi, donc,
Bah écoute, mon Shoji, je trouve ça bien ficelé, bien mené. Ça m'a fait penser un peu à du Maigret survitaminé, quoi.
Ouais.
Voilà, plus péchu.
C'est Maigret avec
Maigret.
C'est Maigret avec Emma Peel, quoi.
C'est Maigret qui est gros, on est d'accord.
Non, mais c'est
il a
ouais,
bien profité. Mais non, ouais, c'est ça, c'est un peu un chapeau blanc et bottes de cuir avec Maigret et ma pile. Mais je trouve que ça fonctionne très très bien au niveau du scénario. C'est intelligemment mené, et c'est vrai que quand tu arrives à la fin, tu te dis, ouais, là, voilà, le scénario était épais, quoi. C'est bien réfléchi, ouais. C'est bien fait.
Il ne reste aucune pièce de puzzle sur le bas-côté, quoi.
Tout était utile. Comme dans un Sherlock Holmes. Mais ouais. C'est vrai qu'il te faut la fin où on t'explique justement tous les petits passages qu'on a. Qui sont parfois juste à peine effleurés au cours du scénario, mais en fait, tu comprends pourquoi est-ce que l'inspecteur, lui, a voulu tel ou tel indice.
Mais finalement, on est un petit peu comme dans sa peau, c'est-à-dire qu'il y a des éléments que l'on voit, il n'y a pas forcément une grosse lumière en dessus en disant « Attention, ceci est un indice utile !»
Bah, disons que nous, on n'a pas la lecture de l'enquêteur. On suit oui. Bah, c'est comme quand tu regardes une série télé ou quand tu lis un Sherlock Holmes. Quoi. Je trouve que je trouve ça bien fait. Bien fait, très plaisant.
Et donc le dessin
donc c'est un look quand même qui est très cartoony. Et moi, ça m'a vraiment super emballé, quoi.
Alors c'est cartoon, mais en même temps, il y a beaucoup de travail sur les ombres.
Au niveau des décors, c'est quand même très réaliste. On est vraiment sur, je pense, il a peut-être même travaillé
photo.
Ah, peut-être après, ouais, merci.
Peut-être une photo.
Voilà, photo. Très très jolie couleur.
Couleur très chaude.
Voilà. Moi, je trouve que tout était bien trouvé dans l'histoire.
C'est ça. Et justement, le dessin, je trouve, rajeunit l'ensemble, dynamise l'ensemble. Parce que sinon, ça aurait eu peut-être une fâcheuse tendance à être un peu vieillot, un peu déjà vu, revu. Là, le dessin, je trouve, permet de garder quelque chose de moderne, une touche de modernité, pour qu'on reste quand même accroché à l'histoire. Au moins au niveau de la dynamique aussi. Indra n'est pas là que pour montrer ses jambes, ses fesses et ses bas, quoi, on va dire.
Oui.
Elle a un véritable intérêt dans l'histoire, mais en plus, dans le scénario, elle dynamise, elle donne de l'action.
Bah, moi, j'ai mis décalage à propos au niveau du dessin. Je trouve que c'est vrai que ça fait un peu décalé par rapport à l'intrigue, mais ça colle très très bien. Ça passe bien, ça permet d'accentuer le caractère des personnages, d'accentuer un petit peu le côté humoristique, parce qu'il y a un petit peu d'humour dedans. C'est pas de l'humour hilarant où tu fais ou tu te plies en deux, hein. Mais il y a des petites touches qui te font sourire, qui te rendent le polar un peu plus léger, alors qu'il y a des passages
notamment grâce au chat.
Alors qu'il y a des passages assez noirs quand même. Bah ils arrivent à te rendre ça un peu léger par ce style un peu cartoony, un peu fun. Et puis par beaucoup de touches de charme, je trouve. Je trouve que là, il a une façon de dessiner les femmes qui leur donne énormément de charme et qui surprend par rapport à la façon dont il a de dessiner tous ces autres personnages, en fait. Tu vois ce que je veux dire?
Ah ben les hommes sont très caricaturaux.
Voilà.
Des gros nez,
aussi,
des grands
t'as un coups, style graphique sur les femmes aussi très.
Des goitres, des ventres énormes, des proportions au niveau des personnages qui sont pas forcément réalistes,
oui.
Pas vraiment respectées. Alors que son dessin de femme est très sensuel. Très sensuel.
Bon, bah, je crois qu'on en a fini. Vieille bruyère et batte de soie, les deux premiers tomes, donc La Tache Noire et le tome Murder 2 Party. C'est Murder Party chez Paquet.
Et le tome 3 donc qui s'appelle
Le tome 3 qui s'appelle. Appelons le tome 3. Tome 3. Nous t'appelons. Tome 3. Ça va être long, hein, là, pour les. Ah, voilà. On voit quelqu'un qui a bossé son splash page, hein, franchement. Bossé, chapeau. Hein.
Dis-moi, t'as même pas bossé les bons bouquins, toi.
Ouais. Alors que c'est peut-être même écrit dans les bouquins quelque part dans un coin.
Non, ce serait pas drôle.
Ce serait pas drôle que ce soit écrit dedans. Genre, je sais pas, le cercueil des souvenirs, tu vois.
C'est ça. Par exemple. Le tome 3, le cercueil des souvenirs.
Voilà. Hein. Monsieur fait genre, je cherche sur Internet alors qu'il y a des bouquins où c'est écrit dedans, tu vois. Mmh. Ah, bravo. Bon, on va peut-être passer à la suite.
13 euros chez Paquet. Bon, voilà, si vous voulez faire de petits cadeaux du style petite enquête, ça peut être sympa.
Les amateurs de polar, ouais. Ça,
vous pouvez offrir ça. Ça fait donc 26 euros, un petit cadeau pour Noël, avec une intégrale de Green Manor. Et là, vous avez des bonnes petites lectures. Bonne petite lecture au coin du feu.
Et dans le tome 3, il y a une deuxième femme.
Ouh. Et dans le tome 4 ?
En toute petite tenue.
Matemanga.
Bonjour camarades, vous allez nous parler du manga russe aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Je parlais du Yuri.
Le Yuri. Et qu'est-ce que Yuri a à faire avec les Japonais?
Ah, tu vas voir. Aïe, 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 tu m'en trouveras à chaque fois. Hein.
Oui, j'essaierai. Alors, vas-y, qu'est-ce que le Yuri?
Parce que, alors, en fait, le Yuri, il faut les prononcer, les R, il faut les prononcer L.
Rappelle-toi, monsieur.
C'est pour ça qu'on dit arigato. En japonais, Yuri, ça veut dire lisse. Et en fait, ça fait référence aux relations homosexuelles entre femmes. Et c'est donc le thème du jour, après le Josei.
Je suis désolé, mais là, je viens d'avoir une image. Relation homosexuelle entre femmes lisse, que je vais vite fait m'ôter du cerveau. Vas-y, continue.
Oui, forcément, oui. En fait, le terme a été utilisé la première fois par Ito Bankaku pour désigner, en fait, la communauté lesbienne en parlant d'eux avec le terme de Yuri Zoku, qui veut dire tribu de lys, en opposition au Barazoku, qui veut dire tribu de rose, et qui correspondait dans ces termes à la communauté homosexuelle masculine.
D'accord. Donc le lys, c'est opposé au rose.
Exactement, tout à fait.
Oui.
C'est mignon.
Ouais. Ah ouais. Mais lys, c'est l'YS hein, ou
L'YS, ah oui.
La D'accord, fleur. Ok, non, mais c'est bon, vas-y, la
tu
fleur.
Tu penses à quoi? Tu commences à me faire peur, là, Pierrick.
Eh non, vas-y, je comprenais rien à ce que tu voulais me dire, c'est pour ça, donc vas-y, continue.
Ouh là 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 là. Donc, fait intéressant, il faut savoir que au Japon, le Yuri ne fait pas de distinction. En fait, quand on parle de Yuri, on parle de tout ce qui traite des relations qu'on peut retrouver autant dans les hentai que l'amitié intense entre deux filles, qu'un amour romantique, et voire même certains thèmes qu'on peut retrouver dans certains shoujo, seinen ou josei.
D'accord, il suffit qu'il y ait en gros deux filles qui s'aiment, c'est du Yuri.
Voilà.
Du Yuri.
Yuri.
Voilà.
Elle. Aux USA, pour mettre de côté le hentai et pour avoir un genre éditorial à proprement parler, le terme shoujo ai a été inventé, mais il faut savoir qu'au Japon, il n'est pas utilisé.
D'accord.
En France, on utilise le terme yuri, mais comme synonyme en fait du shoujo ai.
Ouais, histoire de bien simplifier les choses. C'est cool ça. Ça rend déjà que c'est compliqué.
Oui, c'est vrai que quand on commence à s'y pencher, bon, c'est quand même relativement simple, mais quand t'es un œil un peu néophyte, des fois, c'est vrai que des fois ça doit être un peu perturbant. Donc, rapidement, pour conclure sur ce terme, en fait, le Yuri n'est pas un genre éditorial, comme je viens de le dire, parce que c'est pas basé sur un lectorat précis comme on pourrait trouver pour le shonen ou le shoujo, mais cette fois c'est sur une thématique.
Oui, c'est une classification très très large, quoi.
Voilà.
Ouais, c'est comme quand tu parles de BD d'histoire historique, tu peux avoir tout et n'importe quoi à partir du moment où ça se passe pas à notre époque.
Exactement. Donc c'est vrai que c'est pour cette raison que cette fois, je vais pas m'attarder à essayer d'écrire les basiques du genre, parce que comme c'est une thématique, comme c'est un thème, on trouvera pas d'éléments récurrents.
Ok.
Il y a certains Yuri qui sont assez connus, comme Maria Olic, Utena, Indigo Blue, et un qui, je pense, te fera sourire, Pierrick, qui s'appelle Ragnarok City, qui est édité par BD Hérogène.
Celui-là, il est plus côté hentai, je sens.
Je suis pas allé fouiller sur celui-là. Moi, je vais vous parler de Girlfriend.
Girlfriend, ok. J'imagine qu'en plus, comparé au Josei, je suis sûr que tu as trouvé beaucoup plus de trucs qui t'intéressaient par défaut. Et qu'en plus, étant donné que ce n'est pas vraiment un genre, t'as eu beaucoup de choix.
Bah, je t'avouerai que j'ai quand même cherché pour Girlfriends et je suis tombé sur beaucoup de choses qui ne m'intéressaient pas, on dira. Et par contre, avec Girlfriends, je suis tombé sur un truc qui m'a bien plu.
Mais qu'est-ce que ça raconte que Girlfriends?
Alors, Girlfriends, c'est...
Ce sont les amies-filles.
Tout à fait, oui. Ouais, c'est juste... Ouais, bon, bah voilà, t'as fait la chronique, je peux retourner.
J'ai un sens de la synthèse très très fort.
Prononcé. Donc, c'est un manga qui est édité par Taifu Comics. Taifu Comics, dont j'avais parlé pour Acid Town. Il y a 3 volumes qui sont sortis en France. Il y en a 5 au Japon actuellement, à 7,95€. Je ne parlerai que du premier volume parce que c'est le seul que j'ai lu.
Ouais.
Et c'est un manga qui a été dessiné par Morinaga Milko.
Milko, comme la vache.
Milk, en fait. Mais le gars se prononce pas K comme chez nous. Il faut que tu révises, puis il faut que tu...
Ouais,
révises.
Non, mais moi, tu sais, ça, malheureusement, ça va être long à rentrer pour moi.
Girlfriend, ça nous raconte l'histoire de Mariko, une lycéenne timide et introvertie, qui est assez sérieuse et appliquée en cours. Mais bon, malheureusement, elle n'a pas vraiment d'amis en classe et participe que très très peu à la vie de sa classe. Assez réservée, assez dans son coin.
Ça commence comme un manga de sport, hein.
Oui, ou comme dans beaucoup de mangas, où le personnage est un personnage qui est typique de cette génération, on dira.
Ok. Et donc, qu'est-ce qui va bouleverser sa vie, qui va faire qu'elle va s'ouvrir à de nouveaux
horizons ? Bouleverser sa vie, c'est qu'elle fait la connaissance d'Akiko, une jeune fille débordante de vie et d'énergie. D'ailleurs, elle fait la connaissance. C'est plutôt Akiko qui fait le premier pas dans la vie de Mariko, avec une délicatesse à faire peur. Mais en fait, si tu regardes bien, in fine, ça correspond bien au personnage. Akiko va alors faire changer petit à petit Mariko, pour qu'elle s'ouvre sur tous les détails qui font vibrer les jeunes filles de cet âge-là, les jeunes lycéennes, c'est-à-dire les sorties, la mode, les maquillages. Et c'est le début en fait d'une amitié très forte entre les deux lycéennes qui va petit à petit mûrir, mais vraiment à son rythme, pour très très doucement se transformer vers une histoire d'amour.
C'est vraiment quelque chose de très simple et basique au niveau du scénario, en tout cas.
Oui. Oui, mais j'en parlerai plus tard du scénario. Je vais parler du dessin.
Ouais.
Parce que ça va être assez rapide. C'est un dessin qui est très clair, qui est très lumineux, qui, dans les traits, fait très shoujo. On sent que l'auteur n'en est pas à sa première œuvre. Les personnages sont très reconnaissables, les émotions sont très bien retranscrites. Il n'y a pas d'évolution graphique majeure comme on peut voir certaines fois dans certains mangas où on sent que l'auteur au fur et à mesure des chapitres affine son trait. Donc c'est un trait qui est comme je le disais qui est hyper lumineux, qui est très très clair et qui respire le côté léger et insouciant. Au niveau du scénario, Donc, y a un point dont je dois parler avant toute chose, c'est que j'ai lu le tome de Girlfriends après une dizaine de tomes de Berserk, et pendant que j'étais en train de lire les 25 tomes de Gantz. Donc, ça a
J'ai cru que
dû.
t'allais me dire un truc genre, je l'ai lu dans le sens de lecture européen et j'ai tout compris. Non, donc non.
Non, 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 mais bon, si tu connais un peu Berserk et Gantz, tu dois.
Ouais, c'est pas le même niveau de
Conception de
délicatesse
l'histoire et
de
du.
finesse. C'est pas la même délicatesse.
Voilà. Du coup, cette histoire qui est une histoire sans prétention, qui traite des sentiments et des émotions de jeunes filles tout à fait normales. On parle pas d'intelligence surdéveloppée, de potentiel latent extraordinaire. Non, c'est une histoire qui est un baume au cœur, quoi. C'est Il y a une légèreté des moments qui sont vécus, il y a une pertinence des sentiments ressentis qui te donne la sensation de vivre une petite tranche de vie des lycéennes qui sont super attachantes. Et qui fait un bien mais incroyable. Pour tout dire, je t'avoue que le volume, je l'ai dévoré avant de retourner me faire déchirer l'âme en deux en me remettant à lire du Gantz. Et donc voilà, j'avoue que
Ça a réveillé ton côté fleur bleue.
ça fait du bien. Ça fait du bien après Berserk et Gantz de tomber sur un volume qui soit aussi tendre, cool, léger, lumineux, parce que c'est vrai que il y a certains seinen, bon voilà quoi, c'est
Ok.
entre ça et Front Mission, Dog Life and Dog Style,
Ouais.
bon c'est
Donc tu recommandes.
ah bah oui, bien sûr,
Tu
bien
ne serais
sûr,
pas
bien
du
sûr.
tout intéressé à ça si on n'avait pas eu, si je t'avais pas imposé le sujet dans l'émission.
Ah oui, non, mais ça c'est clair, ça c'est clair. Bon, je passe un peu pour un type bizarre quand je me balade dans les rayons des rayons manga, parce que je suis dans des rayons où comme je disais tout à l'heure, je passe du seinen bien sanglant à un truc très très girly girly.
Tu auras l'air plus bizarre pour la prochaine émission.
Oui, alors là je t'avoue que je sais pas trop comment. J'ai déjà commencé à préparer chez moi l'idée que. Mais tu comprends, chérie, c'est pas de ma faute, c'est pour le One A Club que je suis obligé de lire ça.
Si tu veux, m'appelle et confirmera. Je confirmerai. Oui, donc Girlfriend, donc de Morinaga Milko. Tu
Milk.
recommandes, c'est sympa, ça vaut le coup, c'est léger. On est vraiment, clairement, pour donner une idée du classement, on est vraiment dans du tout public, lisible par tout le
Tout
monde.
public, lisible par tout le monde, vraiment.
Pas
C'est
de fan service.
non, 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 pas de fan service. Même justement, il y a au départ, il y avait des petites piques qui étaient lancées vers la mangaka qui dessinait ça, parce que ben, elle a clairement dit que c'était un Yuri, mais elle amène ça vraiment par petites touches, et il y a certaines personnes qui disaient, mais oui, en fait, non, c'est pas un Yuri, c'est un shoujo, quoi. Parce que le côté amitié au début est vraiment vraiment développé et en fait petit à petit on se demande qu'est-ce qu'elle voulait si au départ le fait qu'elle aille voir Mariko parce que elle avait pas envie de voir cette fille-là toute seule et que ça l'embêtait ou si réellement déjà de base il y avait quelque chose il y a donc comme j'ai dit au départ j'ai lu que le premier volume donc je peux pas me prononcer sur la suite, mais ça a attisé ma curiosité, clairement. C'est la fin du premier tome me fait poser la question. C'est une petite série en 5 tomes, c'est court, et je t'avoue même que c'est tellement bien écrit que j'ai pas envie de connaître la fin, mais j'ai envie de savoir comment ça va arriver.
D'accord. Eh ben merci beaucoup pour cette chronique. Tu as aussi éveillé ma curiosité, comme tu le fais à chaque fois, car tu arrives à trouver des titres dans des genres que je n'aurais jamais tenté,
Ah,
mais
ça...
qui ont l'air intéressants.
Et je le dis chaque fois, mais c'est un genre, c'est une case et il y a des pépites partout, faut pas s'arrêter à
Je
la case.
suis. J'en conviens. Eh ben, on se retrouve très bientôt pour. J'espère qu'on arrivera à t'avoir en live pour notre épisode 69 pour fêter nos 3 ans de podcast.
J'essaierai, je ferai de mon mieux, je ferai tout
Et
mon
puis
possible.
sinon, on a intérêt, on fera un petit enregistrement avant qu'on passera pour l'occasion.
Oui, mais je vais essayer de m'arranger pour que ça soit possible.
Ok, ça marche. Allez, à très bientôt. Ciao.
Ah, ciao!
Hors sujet. Nous allons parler d'un artiste que nous avons vu en concert il y a peu.
Nous y étions tous.
Putain la vache, et comme tu le présentes, on dirait qu'on est en train de l'enterrer là sur le coup.
Nous n'allons pas l'enterrer, car il a fait une tournée en Europe.
Mais bien chère sœur.
Il a fait une tournée en Europe qui s'est achevée malheureusement, donc vous ne pourrez pas le voir. Mais vous pourrez vous. C'est bon là, hein
Non, ce n'est pas une chronique sur Eddie Mitchell.
Alors stop, on vous coupe tout de suite. C'est juste que voilà, là, on a Wanaï qui est en train de. Qui a les deux coudes sur la table. Les mains jointes, comme s'il faisait un sermon.
C'est ça, il fait son prêche.
On croit qu'il est en train de l'enterrer, le pauvre gars.
Et pourtant, Tom McRae est toujours en vie.
Tom McRae ! Tom McRae !
Donc, nous l'avons vu en concert au Café Julien, pas à l'Espace Julien, au Café Julien. Pour les Marseillais, vous saurez que ça fait une grande différence.
Disons que, en fait, l'Espace Julien, c'est une grande salle. Le Café Julien, c'est un grand bar avec une micro-scène.
Voilà.
Mais ça
a
suffi.
Ça a suffi parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde.
Mais tant mieux, on s'est régalé.
Oui, nous, on s'est régalé. Donc, Tom McRae est un pop songwriter, on va dire. Hein. Il fait de la chanson pop folk, mélodique, douce, jolie et sympathique. Vous avez sans doute déjà entendu un de ses tubes, même si vous aviez oublié que c'est de lui, parce qu'il a fait pas mal de passages radio il y a quelques années maintenant.
Oui, une bonne dizaine.
Voilà. Malheureusement, il y a eu un peu moins de succès au point qu'apparemment il est maintenant sans maison de disque, qui se débrouille un petit peu. Je sais pas, il a peut-être une maison de disque indépendante, mais en tout cas, il est plus chez. Il est plus chez. Voilà, toi, on fait une chronique, on parle de musique, tout de suite, Isaac se lâche. Et donc, il a sorti un album qui s'appelle From the Lowland il y a peu, qui est la suite de son album précédent, qui était sorti lui chez un gros label, je sais plus lequel, qui s'appelle. Alphabet for Hurricanes, qui était une référence au fait que les ouragans suivent les lettres de l'alphabet. Nous, on aime beaucoup. Et étonnamment, si vous avez l'occasion de le voir sur scène, il a beaucoup d'humour. Alors, on ne s'attendrait pas vraiment quand on écoute ses chansons à beaucoup rigoler.
Les chansons sont plutôt des ballades amoureuses tristes. Et effectivement, on a donc un chanteur qui nous fait des blagounettes, qui fait participer son public.
Et qui fait bien participer.
Sans avoir besoin de sortir les briquets.
Oui. Et on rigole bien en fait. Ouais. Et sur une petite salle où il n'y a pas grand monde, et ben, il arrive quand même à mettre l'ambiance et on passe un bon moment. Il se fout un peu de notre gueule quand même, hein, en disant que nous étions la plus petite audience qu'il ait eue, mais les meilleurs siffleurs. Ce qui n'est pas très sympa parce que je ne sais pas siffler. You got a whistle, baby. Quelques titres remarquables.
Donc juste quand même pour signaler qu'a priori beaucoup de personnes à qui je l'ai fait écouter récemment m'ont dit mais il a beaucoup d'intonation à la Brian Molko. Donc si vous êtes fan de Placebo, essayez Tom McRae.
Beaucoup d'intonation à la Brian Molko. Tu vois, j'aurais pas vu.
Moi non plus.
Bah si.
Faudrait que j'aurais écouté.
Ouais, là tu me.
Non, je t'en troupe à un coin. Je t'assure que c'est vrai.
D'accord. Quelques titres. Allez, vos titres phares.
The Boy with the Bubble Gun.
Ouais.
Bloodless. Mais il l'a pas joué.
Oh là là. Par contre, The Boy with the Bubble Gun, il l'a chanté. Yalla.
C'est normal, c'est là il l'a fait à chaque fois.
For the Restless.
For the Restless.
Ouais.
Voilà. Si vous avez l'occasion d'aller écouter ça, ils sont très très bien. J'ai beaucoup aussi aimé Mississippi.
Ouais.
C'est très sympa. Enfin, qui bouge un peu d'ailleurs. C'est une des chansons qui bouge un peu. Il y en a pas des.
Qui du coup est très participative.
ANB Song aussi qui est superbe.
Hein?
ANB Song.
Voilà. Et les classiques qui sont connus, c'est Got My Guitar, Got My Suitcase.
Et End of the World News.
Voilà. On vous le recommande. Nous, c'était très sympa. Choper les albums. On a passé un très bon moment au concert.
Absolument. Et puis, c'est un artiste qu'il faut aider. C'est un excellent artiste qui n'a plus de maison de disques. Il faut qu'il continue à pouvoir écrire.
Voilà. Nous arrivons à la fin de cette émission. Nous avons passé un très bon moment. Il est fort tard pour nous.
Donc, comme d'habitude, ne laissez pas de commentaires sur Facebook. Évitez le Twitter de OneIPied. Surtout.
Ne commentez rien sur Amazon en passant par le site.
Exactement. Ne laissez pas de commentaires sur iTunes ou sur Podcast
France.
Ouais. France. Ne laissez pas non plus de commentaires sur La Voix des Bulles, notre cher site avec le podcast que vous pourrez télécharger le dans bientôt. J'ai oublié quelque chose ?
Non, je crois que
ne lisez pas de BD.
Voilà. Et surtout, sortez un petit peu, profitez du beau temps qu'il reste encore en ce magnifique mois de novembre.
Oui.
Dans le sud de la France seulement.
Alors merci là, vous avoir écouté. Fais des prédictions météo maintenant.
Là, j'ai l'impression qu'on va se quitter, que ça va y avoir un décès. Tu dis ça d'une voix tellement monocorde.
Attends, je pense que tu es. T'as déjà enterré Tom McRae tout à l'heure, alors c'est bon.
Voilà. Merci de nous avoir écouté. On se retrouve dans 15 jours, à très bientôt. Ciao.
Ciao, ciao.
Bye, bye.
Donc, Girlfriend, ça... Maliko, une lycéenne...
Alors, attends. Là, c'est pas possible. Là, j'ai eu des blancs, mais des vrais gros blancs de la mort. Là.
D'accord. Oui, ben, d'ailleurs...
Qu'on coupera au montage.
Moque-toi, moi.
Non, mais c'est de moi que je me moque, ça va, j'ai le droit.